Tout le mois de mai, la Fédération des journalistes du Québec présente pour la 5e année consécutive les semaines de la presse et des médias, avec comme porte-parole la journaliste d'enquête au devoir Amélie Pineda, qui est au bout du fil. Bonjour Amélie.
Bonjour.
Alors Amélie, on ne se connaît pas, mais moi je vous connais plus que vous me connaissez parce que je vous lis dans le devoir assez régulièrement. Mais avant de parler de votre travail, en quelques mots, en quoi consistent les semaines de la presse et des médias?
En fait, les semaines de la presse se déroulent tout au long du mois de mai. Puis le but, c'est vraiment de sensibiliser le public à l'importance de notre profession, donc du journalisme, puis aussi de peut-être leur montrer un peu le travail dans l'ombre de ce métier-là, c'est-à-dire souvent, on va voir la une des journaux, les grands reportages, mais de vraiment les sensibiliser à tout le travail qu'il y a en dessous de ça, toutes les heures qu'on consacre à faire des demandes. Donc, c'est vraiment une occasion un peu d'ouvrir, c'est comme des portes ouvertes pour le public, pour nous poser leurs questions, puis leur faire comprendre comment ça fonctionne, justement, les journaux, les médias, la télé, la radio.
Et pourquoi c'est important de sensibiliser les gens à l'importance du journalisme?
Bien, je pense que parce que d'abord, on travaille pour eux. Le métier qu'on exerce, c'est dans l'objectif de dévoiler des informations qui sont d'intérêt public, puis de vulgariser peut-être des enjeux qui sont complexes pour que les gens qui travaillent, qui ont une job de 9 à 5, qui ont d'autres préoccupations, ben nous, notre rôle, c'est vraiment de leur amener le maximum d'informations factuelles pour qu'eux se fassent leur propre idée des enjeux qui nous préoccupent. Donc, je pense que c'est important pour eux qu'ils comprennent c'est quoi le rôle qu'on joue, puis surtout la rigueur qu'on met dans notre profession, qui parfois est dépeinte pas toujours d'une façon sympathique, si je peux le dire ainsi. Mm-hmm.
Oui, pourquoi le journalisme ou certains journalistes sont mal vus, sont jugés? Pourquoi on a cette espèce d'attitude par rapport au journalisme?
Ben, je pense que quand on regarde nos émissions, nos séries télévisées chouchou, le journaliste n'est jamais dépeint comme étant le personnage le plus sympathique là. Tu sais, si je pense, je sais pas, à District 31 où on avait un Jean Brière qui était vraiment
envahissant.
Tu sais, il se présente au poste sans tout ça. C'est très caricatural, mais tu sais, notre profession, c'est un, on fait pas les trois. Généralement, on peut pas écrire, faire la télé puis faire la radio. Généralement, on choisit un des trois médias. Mm-hmm. On prend des notes. Tu sais, c'est vraiment, je pense que la façon dont ça a été dépeint dans certaines émissions fait en sorte que les gens ont l'impression qu'on est très envahissant, mais au contraire, tu sais, souvent, on prend beaucoup plus de temps. Puis c'est sûr qu'en ce moment, notre principale concurrence, c'est l'instantanéité des réseaux sociaux. Là. Tu sais, c'est ça qui fait en sorte que souvent, on a l'impression que on peut remplacer les journalistes, alors que je pense que notre travail est plus essentiel que jamais pour s'assurer de contrer cette instantanéité-là. Ben, on a besoin d'un minimum de temps. Puis avec ces semaines-là, on démontre à quel point, ben, tu sais, avoir un minimum de temps, ça permet de faire des demandes d'accès. Des demandes d'accès, ça peut mener à des enquêtes, comme par exemple ce qui a été publié par le Journal de Montréal sur les dépenses de l'OCPM ici à Montréal. Ben, sans un travail de fond.
L'OCPM.
Donc, l'OCPM, l'Office de consultation publique de Montréal, donc qui est un organisme qui avait des mandats municipaux pour consulter la population sur des grands enjeux. Et on a découvert, ben en fait, le Journal de Montréal a découvert qu'il faisait quand même des dépenses assez
astronomiques.
Des dîners au restaurant, dans des restaurants, disons, très chers de la métropole, des voyages aussi dans lesquels on n'hésitait pas à se payer des restaurants quand même assez chers. Donc c'est ça, je pense qu'on doit réconcilier peut-être ce rôle essentiel qu'ont les journalistes à l'image qui en est dépeinte parfois dans les médias. Et malheureusement, dans les derniers mois aussi, parfois, ben, des personnalités publiques comme les politiciens se sont attaqués à notre métier. Donc, c'est toujours de rappeler que, tu sais, oui, on pose des questions, mais c'est l'essence même de notre job, là. Tu sais, souvent, on connaît les réponses à nos questions, mais nous, on les pose pour que les gens puissent entendre la réponse de la bouche même de certains décideurs ou des intervenants dans certains dossiers. Donc c'est ça. Je pense que c'est l'occasion de vraiment montrer une autre facette de notre métier qui est peut-être un petit peu plus méconnue.
Il y a toute une éducation à faire. Est-ce que le public est invité à toutes les rencontres?
Oui, tout est ouvert au public. Donc, l'objectif, c'est vraiment que les gens puissent venir nous rencontrer, poser leurs questions, se familiariser avec différents types de journalisme. La semaine prochaine, par exemple, on est plutôt sur le journalisme d'enquête, justement. Donc, les activités sont toujours ouvertes au public.
Et ça se passe où?
La semaine prochaine, c'est en virtuel. Sinon, dans chaque région du Québec, il y a des activités qui sont organisées. Tout peut être consulté sur le site des Semaines de la presse. Le panel virtuel, il va être composé de 4 journalistes d'enquête, André Noël, Kathleen Lévesque, qui maintenant enseigne le journalisme à l'Université du Québec à Montréal. Puis Mathieu Lamotte du Nouvelliste et Priscilla Plamondon-Lalancette de Radio-Canada. Donc, ça va vraiment être en virtuel. Les gens peuvent s'inscrire. C'est de 18h à 20h. Ils peuvent interagir avec nous. Donc, s'il y en a certains d'entre vous qui nous écoutez, qui êtes curieux de savoir comment ça fonctionne, justement, les étapes d'une enquête, qu'est-ce qui mène à la publication, je vous invite à venir partager et discuter avec nous.
Et Amélie Pineda, vous ne ferez pas partie du panel?
Oui, je l'anime.
OK, vous l'animez, donc, d'accord.
Donc, bon. J'anime le panel avec ces 4 collègues-là. Mais oui, tu sais, pour moi, le rôle de porte-parole, c'est quand même, une mission de rêve parce que, tu sais, nous, on a un engagement envers notre profession, mais de la faire connaître, c'est-à-dire de vraiment parler de toutes les étapes, de tout ce que ça prend avant d'aller à publication. Moi, je trouve que c'est de vraiment sensibiliser le public à tout ce travail de l'ombre. Donc, c'est pour moi, c'est oui, je vais animer ce panel avec grand intérêt.
Et comment vous approchez pour être porte-parole?
C'est une bonne question. Il faudrait demander au comité organisateur parce que moi, j'ai été contactée il y a quelques semaines pour voir si j'étais disponible et intéressée à le faire. Puis bien entendu, une belle marque de confiance parce que, comme je dis, ce métier-là, on l'exerce avant tout pour essayer de rendre de l'information disponible au public, puis de pouvoir être ce pont-là entre les professionnels que nous sommes, puis les gens qui nous lisent, nous écoutent et nous entendent. Ben, pour moi, c'était comme un oui d'avance, là.
Et à quel âge ou comment, en tout cas, avez-vous su que vous vouliez devenir journaliste d'enquête? Parce que c'est un métier qui peut parfois s'avérer risqué, dangereux même.
Oui, ben, je pense que j'ai jamais su que je voulais être journaliste. Ça n'a jamais été une évidence, comme peut-être pour certaines autres personnes. Moi, mon parcours, je l'ai fait, puis je me dirigeais vers ça, je pense, peut-être parce que tu sais, j'ai une certaine débrouillardise, je suis quand même curieuse, je voulais pas avoir un quotidien routinier, tu sais, je voulais vraiment comme essayer de toucher à tout, mais en même temps, avoir cette adrénaline-là de publier pour le lendemain, ça m'attirait beaucoup. Puis quand j'étais à l'université au bac en journalisme, je me rappelle que dans mon cours de journalisme d'enquête, c'était Alain Gravel qui était venu nous faire une présentation sur en quoi ça consistait le journalisme d'enquête. À l'époque, lui avait sorti son reportage avec la cycliste Geneviève Janson, qui pendant des années avait nié s'être dopée, puis que là, elle avait finalement confié, témoigné que elle avait menti. Donc, tu sais, j'avais trouvé ça super impressionnant de voir comment il avait gagné sa confiance, tout le travail qui avait mené à la mettre assez à l'aise pour qu'elle dise enfin qu'elle avait menti, puis les raisons pour lesquelles elle avait fait semblant devant le Québec au complet qu'elle n'avait jamais été dopée.
Ouais.
Puis 10 ans plus tard, donc l'an dernier, j'ai été invitée moi-même à ce cours de journalisme d'enquête. Puis ça m'a fait réaliser que, ben, dans le fond, j'étais rendue là où j'aurais voulu être quand j'étais sur les bancs d'école. Donc, Ça s'est présenté à moi en 2017 quand le mouvement Moi aussi a éclaté. Mm-hmm. On a fait des enquêtes sur les violences sexuelles. À l'époque, moi, j'ai signé le papier en collaboration avec le 98.5 sur les allégations qui concernaient Gilbert Rozon. Puis, ça a vraiment orienté ma carrière. Puis, 3 ans plus tard, Le Devoir a décidé d'ouvrir une équipe d'enquête de laquelle je fais partie. Donc, c'est tout nouveau au Devoir, mais en même temps, je pense que ça montre aussi l'intérêt et l'importance du journalisme d'enquête au Québec.
Alors, d'ailleurs, il faut souligner qu'en 2017, pour l'article que vous avez publié, là, cette enquête sur les allégations d'inconduite sexuelle de Gilbert Rozon, vous avez remporté le prix Judith Jasmin dans la catégorie enquête en compagnie de Monique Néron et Émilie Perrault, qui étaient à l'époque au 98.5. Alors, félicitations. C'est un gros travail. Vous vous intéressez, il y a la Fédération du journalisme qui a souligné la qualité de vos dossiers ayant trait à la violence conjugale menée avec Magdalene Boutros, qui est une autre journaliste au Devoir. Vous avez d'ailleurs été élue journaliste de l'année 2021 lors du concours canadien de journalisme. Vous en gagnez des prix. Est-ce que le sujet des violences conjugales vous intéresse particulièrement? Est-ce que vous allez faire d'autres dossiers sur les violences conjugales?
Oui. En fait, la violence conjugale et les violences sexuelles, c'est devenu dans les dernières années vraiment un champ de couverture comme peuvent l'être l'environnement, la culture, l'éducation. On a encore un grand intérêt pour ça parce que depuis 2020, au Devoir, on publie à chaque année une grande enquête sur un thème lié à la violence conjugale. Puis je pense que ça a quand même permis de revoir la façon, le traitement journalistique de ce fléau-là. Tu sais, pendant longtemps, ça a été traité peut-être comme un fait divers. Ouais. C'est quelque chose qui se passe entre deux personnes. Puis, tu sais, on voulait pas trop s'en mêler si c'était pas judiciarisé. Alors qu'aujourd'hui, on a vraiment, tu sais, changé toute notre approche, les termes utilisés. À une autre époque, moi-même, j'ai déjà écrit crime passionnel pour parler d'un meurtre conjugal. Aujourd'hui, tu sais, c'est plus un terme que les médias utilisent. Il y a eu l'entrée du terme féminicide aussi, que plusieurs médias commencent à utiliser. Donc, je pense que oui, il y a encore de la place pour d'autres enquêtes. Il devrait y en avoir à venir d'ailleurs cette année.
Et Amélie Pineda, quel est le plus gros risque que vous ayez pris dans votre carrière?
C'est une bonne question. Je me le pose à chaque fois parce que, tu sais, je veux dire, c'est sûr que moi, j'ai travaillé pendant un certain temps au Palais de justice. Donc, tu sais, au Palais de justice, tu vois plein de situations où tu réalises, en fait, que tout peut arriver ou tout peut arriver à n'importe qui. Au quotidien, le risque d'un journaliste d'enquête, c'est bien entendu, on s'expose à des poursuites, mais je pense que ça, c'est le risque, tu sais, généralement de tout journaliste. Mais c'est ça, tu sais, je pense que mon plus grand souci, c'est de toujours être rigoureuse, puis de vraiment comme m'assurer que ce qui va à publication est béton. Fait que je dirais que au quotidien, c'est vraiment le risque de poursuite qui pèse sur nous quand on est journaliste d'enquête, peut-être un petit peu plus que quand on fait du quotidien ou quand on va à une conférence de presse, mettons.
Et est-ce que l'espèce de phénomène des fake news, les fausses nouvelles, ça vous décourage? Est-ce que vous sentez que la bataille est perdue face à
non,
ce phénomène-là?
Oui, c'est ça. C'est sûr que comme je disais, tu sais, l'instantanéité des réseaux sociaux, c'est vraiment comme la principale source, le principal défi pour nous. Par contre, je pense pas qu'il faut baisser les bras. Au contraire, dans les derniers mois, je trouve que le journalisme, il y a eu du beau travail de journalisme d'enquête au Québec qui démontre que c'est vraiment un travail essentiel et que notre rôle permet que des situations que peut-être certains auraient voulu qui passent sous le radar, ben grâce à nous, grâce au fait qu'on veille sur avoir des faits, ben ça s'est exposé au grand jour. Donc, faut lutter contre ce type d'informations-là. Je pense qu'il y a aussi tous les médias qui essaient de faire le maximum de déconstruction de certaines informations qui sont véhiculées. Je pense comme par exemple aux décrypteurs à Radio-Canada qui consacrent leur temps à venir démontrer comment une fausse nouvelle a pu être répandue, puis finalement mettre les faits de l'avant. Mais c'est certain que faut aussi s'adapter à notre prochain lectorat, auditeur, électeur, parce que la façon de consommer l'information a beaucoup changé. T'sais, moi, ça fait pas si longtemps que j'ai gradué, ça fait 10 ans, mais les réseaux sociaux prenaient pas la place qu'ils prennent aujourd'hui. Ouais. T'sais, nous, par exemple, au Devoir, on a maintenant un journaliste TikToker qui démontre que c'est possible de faire de l'information. T'sais, je veux dire, il a la même rigueur que nous, mais lui, ben, il décline son contenu autrement. Donc, je pense qu'il faut pas non plus snobber peut-être d'autres formes, d'autres types de plateformes qui sont moins traditionnelles. Mais je pense qu'il faut être là où les gens sont, là où les jeunes sont, parce que c'est surtout eux qui viennent s'alimenter de ces sources-là. Mais justement, en s'adaptant, en ayant un journaliste TikToker qui, lui, suit les mêmes règles, le même code de déontologie que nous, je pense qu'on peut venir contrer un peu ce phénomène-là qui, oui, préoccupe quand même.
C'est sûr. En quelques secondes, là, le temps file, j'aurais aimé ça parler encore plus longtemps avec vous. L'intelligence artificielle, est-ce que ça fait partie des enjeux dont vous discutez?
Ça fait partie des enjeux, je crois, effectivement, qui sont discutés dans un des panels, mais sinon, je pense que c'est la principale aussi source de préoccupation après l'instantanéité des réseaux sociaux, parce qu'on se rend compte à quel point l'intelligence artificielle peut faire un travail qui, est très similaire au nôtre et peut induire les gens, pas tant en erreur, mais peut tromper puis laisser croire que c'est un humain qui est derrière ça, alors que finalement, c'est une machine. Donc, c'est sûr que je pense que dans tous les médias actuellement, c'est une discussion qui est en cours pour s'assurer qu'on peut peut-être utiliser de l'intelligence artificielle pour être plus efficace, mais jamais pour, concurrencer la rigueur de notre travail.
Amélie Pineda, porte-parole et journaliste d'Enquête au Devoir, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Je rappelle que les semaines de la presse et des médias se poursuivent jusqu'à la fin du mois de mai. Merci.
Merci à vous.